Blanc de Noir, deuxième partie. Et encore quelques livres qui nous ont beaucoup plu. À commencer par un livre qui s'appelle Impur. Son auteur en est David Vann. C'est paru chez Gallmeister il y a très peu de temps. Et c'est traduit par Laura Derajinski. Le premier roman de David Vann, on vous en avait parlé à l'époque, ça s'appelait Second Island. Et franchement, ça avait fait une arrivée fracassante dans le monde du roman noir. Et je n'aime pas dire cette expression, mais dans le monde du roman tout court. Il avait obtenu à l'époque le prix Médicis. Et c'est tellement rare pour un roman noir d'atteindre ces prix-là. Et ça nous avait fait tellement plaisir. Il faut dire que ce prix était aussi totalement mérité. Roman très très noir, une noirceur que la blancheur des grands espaces glacés de l'Alaska ne pouvait jamais éclairer. L'Alaska, c'était l'endroit où se passait ce premier roman. Dans ce premier roman, on avait une relation père-fils menée à son paroxysme, une violence intrinsèque au récit, une nature tout à la fois mythifiée et d'un réalisme prégnant. Et franchement, David Vann nous avait bluffé. Pour tout dire, un peu empêché de dormir. Mais bon, son deuxième roman s'appelait Désolation. D'ailleurs, il s'appelle toujours Désolation, comme le premier s'appelle toujours Second Island. Donc, ce deuxième roman, Désolation, surfait sur les mêmes thèmes. Et Impur, celui dont je vais vous parler ce soir, va encore nous plonger dans les liens familiaux tissés de passion, de sang, de haine et d'amour mêlé. Si les deux premiers romans se passent dans le Grand Nord, comme je viens d'expliquer, entre autres dans l'Alaska, l'extrême Nord, le froid étant, on peut le dire, un catalyseur des histoires, ici, c'est la touffeur californienne qui va être aussi un déclencheur des rancœurs qui agite la famille de Galen. Galen, c'est un jeune adulte un peu attardé. D'ailleurs, David Vann joue un peu avec son lecteur. Il montre tour à tour le désordre du cerveau de cet adolescent, comme je l'ai dit, légèrement attardé. Mais aussi, il y a un désordre extérieur qui peut faire penser que Galen, il n'est pas plus attardé qu'un autre. On ne le dit jamais, on le pressent dans ses gestes, dans sa vie quotidienne. Galen, donc, vit avec sa mère. La grand-mère, la maman de la maman, a été placée en maison de retraite. Et en gros, ils vivent sur ses sous, les sous de la grand-mère. Les seules personnes qu'ils fréquentent, aussi bien la mère que le fils, il doit dans un proche avenir aller à l'université, mais on sent bien que c'est un projet qui dure depuis très longtemps et qu'il n'est pas prêt d'y aller à l'université. Donc les seules personnes qu'ils fréquentent sont la grand-mère et la tante, ainsi que sa fille, c'est-à-dire la cousine de Galen. J'espère que vous suivez les liens familiaux. Les deux sœurs, la mère et la tante, se haïssent. Les secrets qu'elles partagent semblent lourds, indicibles. Quant à la jeune cousine, elle s'amuse à allumer le jeune Galen, compressant aussi puceau. Dans la petite cabane familiale, un jour, Galen va ainsi perdre sa virginité. Rentrés dans leur maison, la mère et le fils vont donc se retrouver face à face, basculer l'un l'autre dans la tragédie et s'affronter en un combat étonnant et d'une cruauté féroce. L'un comme l'autre, dès le début de l'histoire, c'est ce qui fait la force et l'intelligence de ce récit, alterne entre des moments de mysticisme complètement déjanté et un prosaïsme surprenant. Ainsi, Galen passe ses journées à lire et à relire Siddhartha, méditation, à marcher sur des braises brûlantes, puis à se masturber. Là, il passe beaucoup, beaucoup de temps et c'est décrit d'une manière, on va dire, fort crue, pour tout dire. Mais la chair sent le soufre et l'esprit est corrompu. Ici, on ne bascule pas dans la folie parce que on est au cœur même de celle-ci. Ce que semble nous dire David Vann, c'est que, finalement, dans la vie, dans la vraie vie, dans les romans, dans la vraie vie, on ne sait plus trop où on se place. La normalité des choses, les relations familiales, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Mais plutôt, c'est tout le temps, et c'est exceptionnel si ça se passe autrement, c'est une succession de tragédies. Ces tragédies étant, malgré tout, la plupart du temps, évitées par, on va dire comment, le polissage de la vie, la morale, la religion, ce genre de choses. Quand on est débarrassé de ça, eh bien, on a des relations qui vont toujours dans un paroxysme de passion et de violence. Mais finalement, le roman noir l'explique depuis très longtemps. Et puis, c'est pas très nouveau parce que les tragédies grecques, je crois, nous racontaient déjà la même chose. Donc je rappelle, ça s'appelle Impur, ça, de David Vann, le troisième roman de David Vann, l'américain, et c'est chez les excellentes éditions Gallmeister. À toi Jacques, je pense qu'on change un peu radicalement.
On change radicalement, voilà. D'abord parce que on va parler d'une BD, en plus d'une BD qui n'est pas du polar. C'est pas une BD polar, c'est une BD de guerre ou une BD de sous-marin. Elle est due au duo de Romain Baudy et Martin Trisman. Pardon, dont en fait c'est la première publication. Ils signent tous les deux à la fois le scénario et les dessins. Et jusque-là, en fait, ils avaient œuvré dans l'animation. Cette BD, je l'ai pas dit, elle s'appelle Pacifique. Ce qu'il faut reconnaître que c'est quand même plutôt osé pour une BD de guerre.
Oui, effectivement.
En fait, bon, Pacifique, c'est plus de
c'est l'océan, bien évidemment. Oui, surtout en regardant la couverture.
Voilà, elle est parue dans la collection Univers d'auteur chez Casterman. Une originalité pour cette bande dessinée, enfin plutôt, disons, une rareté, c'est le format. C'est le format à l'italienne. Un format paysage, comme on dit dans nos ordinateurs maintenant. Un format qui colle impeccablement au sous-marin, qui peut rentrer en entier dans la largeur de la page.
Ah, j'avais pas pensé à ça, hein.
Du coup, d'ailleurs, comme on peut le voir sur la couverture que je suis en train de vous montrer à l'instant, regardez bien dans le micro. La BD commence par l'embarquement d'un tout jeune radio dans un U-boat de l'armée allemande. Le bleu, le bisu, a dans ses bagages un livre qui est mis à l'index par les autorités. Un livre qui, bien que rapidement détruit, réapparaîtra tout au long du récit. Lequel récit prendra, par certains moments, des aspects quasiment fantastiques, voire fantasmagoriques. Les dessins, en fait, ont une très grande force.
Oui, c'est étonnant parce que jusqu'à présent, on a parlé du récit.
Oui. Mais bon, c'est aussi une bande dessinée. Donc, les dessins ont une très grande force. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils dessinent tous les deux. Alors, il y en a un qui fait, apparemment, d'après ce que j'ai lu, d'abord le crayonné en noir et ensuite, après, ils font tous les deux le reste du dessin. Donc, les dessins ont une très grande force. L'ambiance du sous-marin est rendue avec une belle authenticité. Il y a des pages sans la moindre bulle, ni texte. Et pourtant, on entend tous les bruits, tous les craquements. Des pages muettes qui sont terriblement bruyantes. Il y a des dessins, les dessins sont souvent en bichromie. Bichromie noir et rouge, bichromie noir et vert, bichromie noir et orange, comme sur la couverture, ou encore plus rare quand même en BD, surtout dans un sous-marin, bichromie noir et violet. Pour finir, sans vous révéler pourquoi, dans un camailleux de bleu, de vert émeraude. Je vais pas vous en parler plus, allez découvrir chez votre libraire préféré ce jeune duo, dont il faudra retenir le nom, pour les amateurs de BD, disons, de BD différentes, Martin Trisman et Romain Baudy, qui ont fait Pacifique chez Casterman.
Voilà, un très bel ouvrage. Moi, je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que rien que la couverture, ça donne envie de se plonger. Bon, apparemment, c'est quand même pas trop pour les claustrophobes, si on est un peu trop enfermé dans le sous-marin.
Bon, ils sortent quand même, de temps en temps sur la mer.
Bon, et on va écouter un petit morceau de musique.
Un petit peu de musique.
Qui n'est pas le sous-marin vert, je suppose.
Qui n'est pas le sous-marin vert, j'ai pensé le mettre, mais bon, non. Un morceau du dernier album en date, de Eric Burdon. Un morceau, donc le morceau, c'est la seule reprise en fait du disque. Il y a 12 chansons, et celle-là, c'est la seule reprise. Une reprise d'un morceau de Bo Diddley, que Eric Burdon aime beaucoup. Ce morceau, on le connaît mieux, nous, dans la version de Creedence Clearwater, mais il s'appelle « Before You Accuse Me ». Si vous permettez avec cet accent. Before you accuse me, take a look at yourself. Somebody else. Take a look at yourself.
Donc je résume, un morceau de Bo Diddley interprété par Eric Burdon, même si c'est Clearwater, je sais même plus.
Creedence Clearwater qui l'a popularisé. Je voulais juste préciser pour nos jeunes auditeurs que Eric Burdon était il y a 50 ans déjà le chanteur de The Animals.
Oui, mais enfin, oui, les jeunes, ils savent pas qui ce sont les animaux.
Eh ben, ils regarderont dans leur Wikipédia préféré ou sur leur appli iFound.
Bon. Eh ben, moi, je vais pas vous parler d'une jeune puisque le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'appelle La vieille qui voulait tuer le bon Dieu. C'est paru chez Bellefond, très petite jolie couverture, et c'est de Nadine Monfils. La vieille qui est évoquée dans le titre, c'est Mémé Cornemuse. Pour les fans de Nadine Monfils, ils se souviendront qu'ils ont découvert, un peu éberlué certes, ce personnage dans Les vacances d'un serial killer, toujours édité chez Bellefond d'ailleurs, où la grand-mère des Stroopers, c'est Mémé Cornemuse, suivait sa famille, installée dans la caravane à l'arrière de la voiture, pour un séjour à la mer, on va dire quelque peu perturbé. La mer était démontée.
Voilà, elle s'appelle des Stroopers parce que je rappelle que Mémé Cornemuse, tout comme Nadine Monfils, sont belges.
Oui, j'avais évité de le dire tout au long de cette chronique et
tu l'as toujours évité. Hein.
Voilà. Donc, premier roman où Mémé Cornemuse apparaît, Les vacances d'un serial killer. On l'avait retrouvé dans La petite fêlée aux allumettes, toujours chez Bellefond. Et Mémé Cornemuse est en train de devenir notre personnage déjanté favorite avec ce roman La vieille qui voulait tuer le bon Dieu. Ici, on la retrouve en tant que concierge dans un immeuble. En fait, c'est une couverture, puisqu'elle a imaginé de faire le casse du siècle et elle a embauché plus ou moins un type bizarre pour creuser un tunnel vers la bijouterie voisine. Seulement voilà, un meurtre, puis deux dans l'immeuble, vont contrecarrer ses plans. Bah oui, parce que s'il y a des meurtres, faut pas que les flics se pointent, parce qu'ils pourraient découvrir le futur casse. Donc, Mémé Cornemuse console la veuve, c'est pas très difficile, hein, et va décider d'enquêter, mais quand Mémé se met à enquêter, c'est vraiment à sa manière. Comme je le disais, la veuve n'est pas trop éplorée non plus. D'ailleurs, quand elle a découvert son mari, dont on avait coupé les mains et le sexe, elle venait de s'envoyer en l'air dans une voiture avec un parfait inconnu. Le mode opératoire, vous avouerez quand même qu'il est quand même inquiétant, mutiler comme ça les cadavres. La veuve, elle va quand même faire quelques investigations de son côté parce que finalement, elle n'est pas trop rassurée. Donc, en gros, deux personnages. La veuve, fan de Lady Gaga. Elle s'appelle Ginette. J'ai oublié de le dire. Elle s'appelle Ginette. Et puis, de l'autre côté, on a la fan d'Annie Cordy. La fan d'Annie Cordy, c'est Mémé Cornemuse. Ça va, et elles vont donc nous entraîner dans plus de 200 pages d'une histoire aussi invraisemblable que drôle, aussi déjanté qu'onirique. J'ai dit que Mémé Cornemuse était fan d'Annie Cordy, mais son dieu, celui qu'elle vénère par-dessus tout...
C'est JCVD.
JCVD, Jean-Claude Van Damme. Le récit est donc émaillé de citations de cet intellectuel. Comme vous le savez, Jean-Claude Van Damme, aussi intelligent que beau. Et je vous défie bien de ne pas éclater de rire à chacune de ses sentences. Le plus drôle, évidemment, étant que ce ne sort pas du tout du cerveau, certes plein d'imagination de Nadine Monfils, mais que Nadine Monfils récupère de véritables paroles dites par Jean-Claude Van Damme dans une de ses nombreuses interviews. Alors ça, c'est inénarrable. Cependant, Ne croyez pas que ce roman n'est qu'une avalanche de gags ou d'anecdotes alignées les uns à la suite des autres. Le récit est construit, rythmé, et l'on retrouve la verve de Nadine Monfils à chaque chapitre. Sa poésie, sa vision du monde aussi. Le récit, là, se passe... Déjà, il y a quelques romans, on avait découvert la ville de Pandore, mais là, Mémé Cornemuse s'installe dans la ville de Pandore. Une ville surveillée par les hommes aux chapeaux boules, vous savez, les chapeaux melons. Dans cet endroit où chacun a le droit de voir un vœu se réaliser dans sa vie. Ça, c'est une très jolie idée. Pour l'instant, mon vœu à moi, c'est de prêter longue vie à Mémé Cornemuse. Ceci dit, ça va pas être facile parce que j'avais cru comprendre dans le premier qu'elle était pratiquement nonagénaire. Bon, dans celui-là, il semblerait plutôt qu'elle soit octogénaire. Ce serait bien qu'elle remonte le temps. Tiens, bonne idée, Nadine, fais-lui remonter le temps. Mais à Pandore, les vieilles comme ça, ça doit être éternel. Et puisque l'on parle de cet auteur belge, voilà, j'ai dit, Nadine Monfils est belge.
Tout comme Mémé Cornemuse, je le rappelle donc.
Voilà, oui, c'est normal, c'est un de ses personnages. C'est pas vrai, parce qu'elle habite Pandore. Ah oui, mais elle s'appelle Destrooper, elle a été en mer du Nord, oui, c'est vrai. Bon, j'aimerais quand même, avant que l'émission se termine, vous signaler l'excellente initiative des éditions Belfond, qui réédite, alors suivez-moi, en volume de deux romans, c'est-à-dire chaque volume contient deux romans, des aventures du commissaire Léon, qui a été le premier personnage récurrent de Nadine Monfils. En gros, un personnage de commissaire, qui tricote depuis qu'il s'est arrêté de fumer.
Voilà, qui est flic à Montmartre.
Voilà, le tome 5 et 6 viennent de paraître, Clair de Lune à Montmartre, justement, et le deuxième, dans le même volume, vous l'aurez compris, s'appelle Le fantôme de Fellini.
Et il y a beaucoup de Mémé Cornemuse dans Le Commissaire Léon, surtout dans Clair de Lune.
N'embrouille pas nos auditeurs.
Surtout dans Clair de Lune à Montmartre, où il y a une mémé, parce qu'il enquête dans une maison de retraite.
Une petite maison de retraite.
Et donc il y a une mémé qui n'est pas sans ressembler de loin à Mémé Cornemuse.
Donc vous l'aurez compris, précipitez-vous sur les livres de Nadine Monfils, que ce soit les inédits, celui qui vient de paraître, La vieille qui voulait tuer le bon Dieu. Si vous connaissez pas Mémé Cornemuse, vous vous précipiterez immédiatement sur les deux précédents.
Qui sont réédités chez Pocket, pour information, en poche donc.
En plus, on peut rire pour pas cher. Et puis je parlais des deux volumes, l'avantage c'est que vous avez deux romans pour à peu près 19€. C'est aussi au niveau du prix poche. Donc, pourquoi se priver? Et voilà, notre émission se termine.
Eh ben, les informations sont pas loin. Nous allons vous souhaiter une bonne soirée.
Et plein de bonnes lectures. Allez, chacun dans son coin.